Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous et bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance qui combinent pour vous cette semaine l'ancien et le nouveau puisque nous vous proposons d'entendre, de découvrir dans un ordre parfaitement arbitraire ou bien un désordre savamment étudié, c'est selon, des émissions qui, soit en raison d'un conflit social, soit en raison d'une journée spéciale, ont été enregistrées sans être diffusées. Le résultat est un chaos de sujets disparates où, de la politique à la littérature, vous trouverez peut-être à boire, à manger et surtout à réfléchir. Une série d'émissions suivie par les entretiens passionnants d'Adèle Van Rett avec les auteurs du livre collectif « La science en jeu » paru chez Actes Sud. Hey, you know what? Diffusés tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Christine Robert avec Martin Delafosse à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Jeanne-Marie Roux et Adèle Van Rett. Et Géraldine Mosna-Savoie qui a préparé cette émission et qui à ce titre nous accompagnera tout le long. Car c'est la suite, et la suite ce jeudi, d'une semaine sur l'opinion, une suite dont à l'heure où nous l'enregistrons, nul ne peut dire si elle sera effectivement diffusée ou bien passée par pertes et profits en ce jour de grève. Après Monique Dixot, Gilbert Romeyer-Derbé, Françoise Mélodion, autrement dit, après Platon, Protagoras et Tocqueville, avant Arlette Farge qui viendra demain vous parler de l'opinion publique, c'est aujourd'hui Alexandre Dupérix qui est l'invité des nouveaux chemins de la connaissance pour évoquer la figure essentielle et encore trop mal connue de Jürgen Habermas, en particulier son ouvrage sur l'espace public.
Qu'est-ce que les lumières ? La sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement, pouvoir de penser, sans la direction d'autrui. Minorité dont il est lui-même responsable, faute, puisque la cause en réside non pas dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere aude, ose penser, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Or, pour ces Lumières, il n'est rien requis d'autre que la liberté. Et à vrai dire, la liberté la plus inoffensive de tout ce qui peut porter ce nom, à savoir celle de faire un usage public de sa raison dans tous les domaines. Mais j'entends présentement crier de tous côtés « ne raisonnez pas ». L'officier dit « ne raisonnez pas, exécutez ». Le financier « ne raisonnez pas, payez ». Le prêtre « ne raisonnez pas, croyez ». Il n'y a qu'un seul maître au monde qui dise « raisonnez autant que vous voudrez, sur tout ce que vous voudrez, mais obéissez ». Il y a partout l'imitation de la liberté. Mais quelle limitation est contraire aux Lumières, laquelle ne l'est pas et au contraire lui est avantageuse ? Je réponds, l'usage public de notre propre raison doit toujours être libre, et lui seul peut amener les Lumières parmi les hommes. Mais son usage privé peut être très sévèrement limité sans pour cela empêcher sensiblement le progrès des Lumières. J'entends par usage public de notre propre raison celui que l'on en fait comme savant devant l'ensemble du public qui lit.
Bonjour Alexandre Dupérix.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Vous êtes l'auteur d'un très utile, en ce qui me concerne en tout cas, Comprendre Habermas, paru chez Armand Collin, ça tombe bien. C'est donc de Habermas que nous allons parler aujourd'hui dans cette semaine sur la question de l'opinion, autour de la question de l'opinion. Alors, le texte que nous venons d'entendre n'est pas de Habermas, certains de nos auditeurs s'en seront certainement aperçus, mais de Kant, un extrait de cet opuscule fameux, génial et limpide, il faut bien le dire, intitulé « Qu'est-ce que les Lumières ?». Et dans ce texte, Kant emploie les termes d'une façon si étrange qu'il en fait presque des faux amis, hein, quand il dit « l'usage public de notre propre raison doit toujours être libre, mais son usage privé peut être très sévèrement limité ». Il est important, hein, à titre liminaire, avant de discuter de Habermas lui-même, d'en venir à la source vive de ses considérations sur l'espace public, c'est-à-dire au texte de Kant sur les Lumières, et de préciser ce que Kant entend par usage public de la raison et usage privé de la raison. Alexandre Dubérix.
Oui, effectivement, cette référence à Kant est essentielle chez Habermas, à plus d'un titre. Dans l'extrait qui a été lu, les mots majeurs, liberté, usage public de la raison résonnent pour toute personne qui a lu un petit peu Habermas de façon familière. L'usage public de sa raison, Kant précise, en fait, c'est faire usage pour un savant de sa raison devant un public qui lit. À l'époque, 18e siècle, faire usage public de sa raison, c'est tout simplement favoriser l'échange des connaissances. Il faut se remettre dans le contexte. Kant est un philosophe, c'est aussi un savant. Ce dont il a besoin, c'est d'une liberté institutionnelle vis-à-vis de la censure, etc., pour que les connaissances puissent circuler et que l'humanité, dans son ensemble, puisse s'élever. Un peu plus tard, dans le texte, il dit l'homme, et c'est bien ça son problème, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à sortir de cet état de minorité, c'est qu'il est lâche et paresseux. Donc, qu'un homme seul s'élève par lui-même, ce sera compliqué. En revanche, qu'un public s'éclaire par lui-même, voilà qui est plus probable. En fait, l'avènement de la raison, le progrès dans l'humanité se fait, en communauté, en commun, de façon collective. Et Habermas, en fait, s'inspire directement de cette idée de Kant, en développant aujourd'hui ce que l'on appelle un modèle de démocratie délibérative, c'est-à-dire que nos normes, nos lois qui régissent notre vie en commun doivent être le résultat de délibérations en commun. La raison est une visée commune, partagée, voilà.
Alors, naturellement, donc pour Habermas, l'espace public désigne concrètement la sphère de discussion. Sphère de discussion dont il faut rappeler qu'elle est à la fois formelle, ce sont les institutions politiques, et informelle, c'est-à-dire les médias, les associations, et ainsi de suite. On entre tout de suite, en fait, avec ces considérations, dans le vif du sujet, et également le péril d'une opinion publique, c'est-à-dire son ambivalence, puisque si c'est collectivement que la raison s'élève, c'est également collectivement que une corporation, par exemple, peut lutter pour ses droits à l'intérieur même de l'espace public, c'est-à-dire bannir finalement la possibilité d'une discussion au profit de la défense des intérêts qui sont seulement les siens. On a là encore l'idée d'une collectivité, Alexandre Dubérix.
Exactement. En fait, vous soulignez ce qui est au cœur du livre de Habermas qu'il a fait connaître, dans lequel il développe justement ce thème de l'espace public, c'est l'espace public, publié en 1962, et il explique précisément que l'espace public est le lieu de tension permanente entre des aspirations à définir collectivement ce que devrait être le bien commun, et puis des intérêts privés qui pervertissent l'idéal d'espace public.
Je voudrais avoir votre sentiment à cet égard. On va continuer cette discussion. Je voudrais avoir votre sentiment à cet égard sur un épisode d'ailleurs dont on a déjà parlé dans les nouveaux chemins de la connaissance il y a de cela deux ans et demi à peu près. C'était au moment de la remise du rapport Attali au président de la République, rapport dans lequel Jacques Attali préconisait entre autres la libéralisation du marché des taxis. Ce qui avait valu, à ce moment-là, des grèves monstres de taxis. Évidemment, ça n'était pas devenu un projet de loi, mais avant même que ça devienne un projet de loi, les taxis, ayant pris connaissance d'une des dispositions du rapport Attali, avaient fait grève et avaient immédiatement obtenu gain de cause. Petit rappel des faits, et vous allez voir les considérations d'un taxi, justement, qui rentrent en résonance avec un Habermas mal compris. Écoutez.
À 18h30, quand les radios annoncent que le gouvernement ne retiendra finalement pas les propositions de Jacques Attali sur la déréglementation de la profession de taxi, le périphérique à hauteur de la place des Ternes a soudain des allures de Champs-Élysées, un soir de victoire de l'équipe de France de football.
Un taxi tout seul ne peut rien faire, on est plus ou moins ridicule, mais tous rassemblés, on plie la capitale, on plie l'économie de la capitale, même de la France entière. Alors, que ça ne se reproduise pas.
Alors Alexandre Dupérix, un taxi tout seul ne peut rien faire, donc l'individu tout seul ne peut pas s'élever, voilà, ça c'est la traduction habermasienne du même problème, l'individu tout seul ne peut pas s'élever, c'est collectivement qu'on s'élève, là c'est un taxi tout seul ne peut rien faire, mais tous les taxis réunis, ils font plier la capitale.
Ça me fait penser en fait à un thème que développe Habermas dans les années 80, alors pas en rapport avec les taxis, mais en rapport avec la crise des missiles qu'il y avait eu en Allemagne. Et Habermas avait écrit un texte où il en appelait en fait à la désobéissance civile. Donc c'est quelque chose qui, pour Habermas, peut se justifier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des citoyens, un groupe de citoyens, considéraient qu'une loi ou un projet de loi qui va être imposé ne correspondrait pas à l'idée qu'ils se font des droits fondamentaux contenus dans la Constitution, alors c'est peut-être un devoir civique que de protester. Après, évidemment, Habermas ne défend pas de poujadisme ou de grève à outrance, etc. Tout cela demande d'être pris en compte par des institutions, par des syndicats, par des entités médiatrices, d'une certaine façon, entre la société civile et puis le pouvoir politique.
Mais est-ce que Habermas permet de penser ce paradoxe d'une grève qui se fait, par exemple, au nom du service public et qui peut également, du point de vue de ses détracteurs, correspondre à la défense d'intérêts particuliers, d'une corporation particulière ?
Oui, je répondrai oui aux deux aspects de votre question. Encore une fois... déjà, premièrement, son modèle est normatif, assez abstrait. Alors, précisément, c'est parfois ce qui frustre quand on lit Habermas, c'est qu'on sent bien qu'il y a une pensée puissante derrière, que ça peut être un modèle pour penser la démocratie, et puis on a parfois l'impression qu'il est un peu loin des cas les plus concrets que vous évoquez juste maintenant. Encore une fois, je crois que si on regarde le schéma qu'il fait de ce qu'il appelle l'espace public politique, ce type de manifestation a évidemment sa place. C'est-à-dire que je peux peut-être développer ce schéma dans un article relativement récent, publié en 2008, il approfondit son idée de l'espace public. Il le considère comme un espace réparti en trois niveaux. Le premier niveau, c'est celui de la société civile, où se passe, vous parliez tout à l'heure d'espace informel. Voilà, on est au niveau de discussions informelles, ça peut être des discussions entre amis, dans un bistrot, dans la rue, etc. Bien sûr, au niveau, à ce premier niveau, peuvent émerger des thèmes susceptibles d'intéresser la collectivité dans son ensemble. Mais encore une fois, on n'est pas à un niveau institutionnalisé. Ça reste relativement flou. Deuxième niveau, c'est celui qu'il appelle au sens strict, espace public politique. Un niveau intermédiaire, en fait, entre la société civile et puis le pouvoir central, le Parlement, les tribunaux, etc. Cet espace intermédiaire va jouer une sorte de rôle de filtre entre les demandes, les aspirations, les revendications de la société civile, et puis le pouvoir politique. Alors, à ce niveau intermédiaire, on trouve les partis politiques, les syndicats, les lobbies qui peuvent certes défendre des intérêts privés. On trouve aussi des acteurs de la société civile, genre avocats de cause pour l'écologie, que sais-je. On trouve aussi des intellectuels, des journalistes, qui peuvent représenter un certain groupe de la société civile et qui ont les moyens langagiers, tout simplement, et organisationnels de prendre en charge les aspirations de la société civile. Tout cela couplé au rôle des médias. Évidemment, le but, c'est qu'un thème, s'il est d'importance et s'il est bien défendu, c'est qu'il soit médiatisé, que l'opinion publique soit, dit-il, rendue publique véritablement par les médias. D'où le rôle essentiel, charnière, des médias, de leur capacité à bien trier l'actualité, les thèmes vraiment qui comptent, ceux qui comptent moins, etc. D'où la notion d'agenda qui est également essentielle. Bon. Ça, c'est le deuxième niveau, celui, donc, encore une fois, qu'il appelle, au sens propre, « politische Öffentlichkeit », hein, l'espace public politique. Et puis, troisième niveau, celui du pouvoir politique, des tribunaux, véritablement là où s'organise ce qu'il appelle le modèle délibératif de démocratie, c'est-à-dire que la véritable délibération, elle se situe là. Je peux peut-être en profiter pour définir un peu ce que Habermas appelle par délibération. Une délibération, ce n'est pas juste une discussion informelle. Précisément, c'est une discussion argumentée, qui est encadrée par des procédures, avec un début et une fin, qui peut être provisoire, bien sûr, et qui vise à trouver une solution en prenant en compte le maximum d'arguments. C'est un processus qui repose sur la recherche coopérative d'un consensus ou du moins d'un compromis. Je fais une petite parenthèse. Pourquoi c'est important cette idée de délibération? Parce que précisément, et là on rejoint peut-être le texte de départ sur Kant, c'est par l'échange d'arguments que l'on parvient à ce que l'on pourrait appeler une forme de vérité. Habermas n'en fait pas quelque chose de transcendant du tout, la vérité, mais voilà, le consensus, au moins provisoire, on est d'accord, on a entendu un certain nombre d'arguments, voilà ce qui nous semble être la solution qui sied au plus grand nombre.
Ce qui fait de Habermas, du coup, le penseur, justement, enfin, en creux, des vices internes de la démocratie, notamment la question du débat, ce lieu commun de la démocratie.
Exactement.
Dont on fait grand cas et qui, aujourd'hui, le plus souvent, n'est qu'une addition de monologues, un exercice où, comme dit Deleuze, hein, chacun fait le beau à tour de rôle. Une question de Géraldine Mosna-Savoie.
Oui, ce que décrit Habermas dans l'espace public, je parle de son ouvrage, et donc relativement justement à cet espace de délibération, décrit une tension en fait entre deux processus contraires. Le premier qui serait l'espace public en fait comme un espace de débat, mais d'un débat argumenté, valide, et qui aurait trait au bien public. Or, ce premier processus est contredit, en quelque sorte, par la colonisation de cet espace public par des intérêts privés. Ce qu'on vient d'entendre, par exemple, en ce qui concerne la manifestation des taxis, révèle justement une position plus optimiste, rejoindrait peut-être une position plus optimiste d'Habermas, en ce qu'un acteur de la société civile décide de prendre la parole et donc de se réapproprier l'espace public qui est colonisé par les médias, par les partis politiques, etc. Mais justement, est-ce que l'opposition que décrit Habermas dans l'espace public est tellement forte qu'on ne peut pas la dépasser finalement? Parce que ce débat du taxi, le débat que lance le taxi, peut être récupéré. Et justement, cette question-là, le passage du débat informel à un cadre formel, n'implique-t-il pas de la périphérie en son centre légal, n'implique-t-il pas d'emblée une récupération du débat lancé par la société civile par des partis politiques qui vont défendre des intérêts privés?
Avec derrière cela le danger de la démagogie.
C'est vrai. Vous posez la bonne question. Est-ce que l'on arrive à surmonter cette tension qui est inhérente à l'espace public que Habermas décrit sur de nombreux chapitres dans son livre de 62, une tension entre, d'un côté, la génération communicationnelle d'un pouvoir légitime et de l'autre, la manipulation de la population par les médias et les pouvoirs illégitimes, dit-il d'autre part. Cette tension est permanente, selon Habermas. Alors comment on en sort? Vous disiez récupération par des partis politiques. Oui, en même temps, lui considère que les partis politiques qui font bien leur travail sont quand même représentatifs d'un certain nombre d'intérêts qui, peut-être frottés à d'autres intérêts, déboucheront sur une solution. C'est-à-dire qu'on n'en reste pas un lobby qui dominerait tout l'espace public, mais précisément, idéalement, à une confrontation d'intérêts qui peuvent peut-être déboucher sur une autre solution que juste de la manipulation ou l'imposition de pouvoirs illégitimes.
Mais dans ce passage, donc de la périphérie au centre légal, ce passage s'accompagne nécessairement pour l'opinion publique, justement, de l'opinion qui papote et qui discute dans les cafés, qui parle de Domenech ou de la grève des taxis, etc., etc., jusqu'à l'opinion qui se constitue en force politique, finalement, qui investit en tout cas l'espace public, le lieu, hein, cette deuxième strate qui investit donc l'espace intermédiaire, l'espace des partis, des syndicats, des lobbies, des manifs, etc., etc. Pour qu'une opinion investisse cet espace-là, elle doit elle-même être éclairée. Comment s'opère finalement cet éclairage ou cet éclairement, c'est à dessein hein, que je fabrique ce mot, c'est le processus d'éclaircissement qui va avec, pour l'opinion, une sorte de, non pas de prise de pouvoir, mais de prise de parole, et une prise de parole collective, Alexandre Dupérix.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Pour Habermas, une démocratie a un but épistémique, cognitiviste. C'est-à-dire que c'est le lieu, idéalement, où l'on peut s'enrichir. J'entends mentalement l'échange d'arguments, la discussion, à cette visée-là. Vous parliez tout à l'heure de démocratie d'opinion. Alors, comment démocratie participative? Comment se distingue démocratie délibérative chez Habermas et puis cette démocratie d'opinion?
Est-ce qu'une démocratie participative, ce n'est pas justement un moment où on aurait renoncé non pas à faire en sorte que l'opinion soit éclairée pour accéder à ce deuxième strat, mais où c'est au contraire l'inverse qui s'opère?
Exactement. Alors, ça peut être un premier niveau louable, voilà, permettre aux gens, c'est pas rien, qu'un système politique permette la liberté d'expression, tout simplement. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de cette opinion? Pour Habermas, une véritable démocratie essaye de qualifier l'opinion. Il parle d'opinion publique qualifiée. Par les vertus, encore une fois, de la discussion. Par les vertus de l'éducation, évidemment. Alors, il est conscient aussi de tous les obstacles sociaux. Il faut permettre aux gens les plus démunis, ceux qui sont justement loin des sources du savoir, d'accéder. Hein. On dit souvent le savoir, c'est le pouvoir, mais évidemment, il y a un enjeu social derrière essentiel et un enjeu démocratique. On voit le lien que fait Habermas entre savoir, rationalité et démocratie. Voilà.
Il ne suffit pas d'être libre pour être en liberté ou pour exercer sa liberté.
Je pensais, oui, par rapport à ça. C'est très important pour Habermas qu'une grande démocratie dispose d'une presse de qualité. C'est quelque chose qui revient très souvent chez lui. Il avait pris position dans la Süddeutsche Zeitung il y a quelques mois, justement s'inquiétant de la disparition de la grande presse de qualité et de tout ce qui est ce qu'il appelle infotainment, hein, l'information divertissement. Voilà, ça, évidemment, c'est un écueil auquel il faut résister. Une démocratie a besoin d'une presse de qualité, a besoin de journalistes, d'intellectuels, capable de faire des synthèses, ça c'est une évidence.
Vive France Culture, une question de Géraldine Mosna-Savoie.
L'espace public en fait est un espace de délibération, mais d'une délibération effectivement argumentée, rationnelle, avec des sortes de normes à valider, afin d'atteindre justement un consensus. Et justement, le problème par exemple, je pense à Tocqueville qui a repéré justement le problème de la tyrannie de l'opinion par rapport au consensus, à la notion de consensus. Est-ce que justement, à partir du moment où on est dans une discussion, où on arrive à un résultat, on arrive à un accord, et donc du coup à un consensus, est-ce qu'on n'est pas malgré tout dans une tyrannie de l'opinion? On arrive à l'opinion juste, qui correspondrait à tout le monde, mais du coup, finalement, on a juste une opinion qui domine les autres.
En effet, c'est un risque. Je dirais que pour Habermas, finalement, on a peut-être moins de risques à courir en favorisant au maximum la délibération. Son espoir, c'est qu'on arrivera à un supplément de rationalité. Alors peut-être que cette opinion dominante sera désavouée quelques années plus tard, mais c'est le propre aussi d'une démocratie. Il n'y a rien de définitif. Un mot qui revient souvent chez lui, c'est faillibilité. C'est-à-dire que voilà, on arrive à un consensus, à un accord, peut-être juste un compromis. Ce compromis est faillible. Prétend pas incarner un point de vue définitif. Peut-être encore une fois qu'il sera invalidé plus tard. Mais voilà, c'est le propre aussi de la démocratie de créer des consensus révisables.
Peut-être Habermas permet-il de penser la démagogie, entendue cette fois-ci, comme si on reprend cette tripartition habermasienne que vous avez posée au départ de l'émission, Alexandre Dupérix, la captation finalement par le pouvoir d'une opinion en elle-même mal informée. Je voudrais avoir votre sentiment à la fois sur l'extrait que nous allons entendre. C'est Pierre Poujade qui, dans une diatribe antisémite, se lance dans une diatribe ouvertement antisémite, déguisée d'ailleurs en amour du genre français et du mélange français, contre Pierre Mendès France, étayé par ce que Roland Barthes en dit lui-même dans Les Mythologies. Écoutez.
Tu es en France depuis quelques générations, je te l'accorde. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de Dupont, de Durand, de Poujade qui ont apporté leur sang, n'est-ce pas, avec le tien? Est-ce que tu t'es mélangé à la communauté française? Non. Eh bien, c'est toi le raciste. C'est toi le raciste, puisque tu n'as pas voulu te mélanger. Tu es venu te mettre dans la communauté française. Tu es venu profiter de la communauté française, de tout ce qu'elle t'a apporté, de cette générosité. Tu en as profité, tu t'es enrichi, tu t'es développé, et tu es resté là, dans ta secte.
Pierre Poujade a une conception de la race à première vue paradoxale. Constatant que le français moyen est le produit de mélanges multiples, air connu, la France creusée des races, c'est cette variété d'origine que Poujade oppose superbement à la secte étroite de ceux qui ne se sont jamais croisés qu'entre eux, entendez bien sûr, les juifs. Il s'écrit, en désignant Mendès France, « c'est toi le raciste ». Puis il commente « de nous deux, c'est lui qui peut être raciste, car il a, lui, une race ». Poujade pratique à fond ce que l'on pourrait appeler le racisme du mélange, sans risque d'ailleurs, puisque le mélange tant vanté n'a jamais brassé, selon Poujade lui-même, que des Dupont, des Durand et des Poujade, c'est-à-dire le même et le même. Évidemment, l'idée d'une race synthétique est précieuse, car elle permet de jouer tantôt sur le syncrétisme, tantôt sur la race. Comme pour l'intelligence, on a affaire ici à une distribution arbitraire des valeurs. L'addition de certains sangs, celui des Dupont, des Durand, des Poujade, ne produit que du sang pur, et l'on peut rester dans l'ordre rassurant d'une sommation de quantités homogènes. Mais d'autres sangs, celui notamment des technocrates apatrides, sont des phénomènes purement qualitatifs, par la même discrédité dans l'univers poujadiste. Ils ne peuvent se mélanger, accéder au statut de la grosse quantité française, à ce vulgaire dont le triomphe numérique est opposé à la fatigue des intellectuels distingués. C'est formidable le texte de Barthes, Alexandre Dupérix. Hein. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, pour que Habermas fonctionne, si j'ose dire, que tout citoyen se jette sur ce texte dès l'instant où il entend Pierre Poujade ou Jean-Marie Le Pen dire ce genre de phrase, hein.
Tout à fait. Je crois que ce qui est...
Est-ce qu'au fond, ce n'est pas utopique, voilà. Finalement, c'est une question sur laquelle on tourne, dont on parle depuis le début de cette semaine.
Je crois que ce qui fait l'intérêt de Habermas, c'est la dimension critique de son œuvre. C'est-à-dire qu'il nous invite à développer une posture critique à travers toutes les problématiques qu'il peut aborder depuis une cinquantaine d'années. Et c'est une sorte d'éducation. Sloterdijk dit de Habermas, voilà, c'était l'éducateur de la République fédérale. Il avait 20 ans en 49, il nous a appris d'une certaine façon à réfléchir de manière démocratatique. Eh bien, on trouve dans son œuvre toute une réflexion sur la force du langage, l'intérêt ou la dimension critique du langage. Le langage recèle en lui-même les possibilités de sa propre critique. C'est-à-dire que donc, quand on entend un message raciste, on peut le déconstruire. C'est là qu'interviennent les jeux d'argumentation. Voilà, donc il y a cette ressource-là critique, évidemment. Tout le monde ne peut pas en disposer, mais que peut une démocratie, si ce n'est d'essayer d'éduquer ses enfants au maniement de l'esprit critique, à être capable de repérer les différents moments ou niveaux d'argumentation, etc. Son argumentation ne tient pas parce qu'elle repose, dirait Habermas, sur des prétentions à la vérité, c'est-à-dire se référant à un contenu propositionnel faux, invalide, c'est-à-dire, par exemple, le fait qu'il y a des races. Scientifiquement, c'est faux. Donc on peut déconstruire, en s'appuyant sur la linguistique habermasienne, en tout cas celle dont il s'inspire, c'est-à-dire la pragmatique universelle, on peut déconstruire un discours raciste. Et encore une fois, voilà, ce que j'aime chez Habermas, c'est qu'il nous invite à une vigilance. Voilà.
Géraldine Mosna-Savoie.
Tout à l'heure, justement, vous parliez de jugements qui étaient qu'on pouvait revoir, qu'on pouvait réviser. Les jugements, enfin l'opinion à laquelle on aboutit à la suite d'une délibération n'est pas définitive.
Exactement.
Cependant, les normes, enfin, j'ai envie de dire tout le dispositif qu'il y a à mettre en place pour qu'une délibération soit juste est extrêmement contraignant. Par exemple, on en revient aussi à la question de tout à l'heure sur qui peut prendre place dans l'espace public, enfin qui peut prendre du moins part au débat, qui justement va pouvoir intégrer ces règles, comment on peut mettre en place ce débat-là. C'est pas non seulement la question de ceux qui peuvent y prendre part, mais c'est aussi la question de la durée, du temps, du dispositif. N'est-il pas trop contraignant?
C'est une critique qui est souvent formulée à l'encontre de la théorie de Habermas. C'est vrai. Cela dit, Habermas réserve encore une fois à la sphère du pouvoir le fait que l'on doive institutionnaliser ces procédures. Il est bien conscient que l'on ne peut pas charger le citoyen lambda de tout un arsenal de procédures pour discuter dans le bistrot. Donc c'est pour ça qu'il développe ce modèle sur trois étages, je crois, où les opinions, petit à petit, sont filtrées, prises en charge et suivent le parcours des canaux de délibération. Mais à strictement parler, c'est au niveau des tribunaux, des parlements, des commissions parlementaires que doivent jouer... Les processus de délibération. Mais je suis d'accord avec vous, sinon le gros, on va dire, de la population n'a pas à entrer dans ces, dans ces processus discursifs.
De sorte que Habermas ne fait pas exception à la règle des philosophes du politique, qui, alors vraiment, Machiavel à Habermas, en passant par Spinoza ou Pascal, ne cesse de dire que ceux qui sont gouvernés doivent l'être également par les cordes de l'imagination. Alors on peut en appeler au développement, à l'éducation, etc., etc., mais tout en sachant que, comme dit Spinoza, les belles réussites sont difficiles autant que rares, et que finalement, il y a une forme d'utopie dans le fait de penser que la première strate de discussion puisse, avec des moyens authentiques, avec des moyens d'éducation véritable, accéder ou investir pleinement l'espace intermédiaire entre le pouvoir et les administrés.
D'accord avec vous. Je crois que chez Habermas, c'est Yves Cusset qui a
écrit. L'opinion l'emporte toujours, c'est ça que je veux dire.
Peut-être pas définitivement. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure qu'il était peut-être un peu, je ne sais plus si c'était dans le cours de cette discussion, mais s'il était plus pessimiste ou moins optimiste qu'avant Habermas. Je crois que dans les années 60, il est relativement pessimiste.
Ça, c'est l'espace public, c'est 62.
Hein. Oui, c'est ça. Il écrit sa théorie de la démocratie, où il reprend ce thème de l'espace public dans les années 90. Entre-temps, la République fédérale d'Allemagne a vieilli, ou je dirais plutôt a grandi, est devenue mûre. Et je crois que pour Habermas, ça a du sens et ça peut permettre un certain optimisme. Un mot qui revient très souvent chez lui, c'est « Lernprozess », processus d'apprentissage. Alors effectivement, ce processus est sans fin. Peut-être que parfois, il peut y avoir des retours en arrière. Mais enfin, Habermas a tendance à voir le verre à moitié plein et à considérer qu'il y a du progrès.
C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre ce qu'il dit de l'Europe ou ce qu'il a voulu faire avec l'Europe, avec l'idée européenne ?
Complètement. Je disais le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Ça, c'est typique pour Habermas. Il voit toujours le verre à moitié plein. Il a un regard de philosophe, mais aussi d'historien. C'est-à-dire qu'il prend du recul et il voit encore une fois comment... Alors, ça concerne évidemment aussi l'Europe, mais pour revenir à la RFA, comment une des plus grandes dictatures de l'histoire de l'humanité est devenue une des plus grandes démocraties de l'histoire de l'humanité. Eh bien là, il faut quand même être d'accord que la démocratie a des vertus épistémiques, qu'elle est portée par des processus d'apprentissage, qu'il y a d'une certaine façon une forme de progrès. Donc son optimisme n'est pas béat, son optimisme n'est pas une utopie, je crois, mais encore une fois, une sorte de procéduralisme, de processualisme, de...
Voilà. Mais est-ce que dans ces conditions, mais pour en rester juste un instant sur cette question de la démocratie, qu'est-ce que Habermas répondrait à quelqu'un qui lui dit « si la démocratie se développe dans le monde, ça n'est pas tellement un effet de l'éducation des individus et d'une progression civique ou civile des individus qui accèdent aux droits et qui limitent leur liberté là où commence celle de l'autre ?» mais tout simplement un effet de la nature humaine et des individus qui, ayant peur, préfèrent élire, au fond, et porter au pinacle le système qui a ce mérite, au moins, de garantir la coexistence des libertés. Qu'au fond, c'est par peur et par nature, et non pas culture, que la démocratie se développe.
Vous pensez à Kant, peut-être
ou... Éventuellement,
oui. Oui, je pense que c'est une argumentation que Habermas ne réfuterait pas. Ce qui est certain, c'est quelque chose qui revient souvent chez lui, c'est l'idée d'une habitude à la liberté. Il considère qu'une société civile habituée à une culture libérale, habituée à la liberté, sera capable de se mobiliser éventuellement pour défendre des droits qui seraient contestés.
Alors, j'ai parlé de la communauté européenne tout à l'heure, enfin oui. De l'Union européenne plus exactement. Il faut rappeler que Habermas avait demandé à un certain nombre d'intellectuels européens, Derrida, Eco, Savater, entre autres, de répondre à la question « qu'est-ce que l'Europe ?» C'est une initiative
2003,
qui date de 2003, absolument. Une question de Géraldine Mosna-Savoie.
Justement, vous disiez qu'une nation habituée à la liberté était capable de se mobiliser. Mais est-ce qu'on ne peut pas plutôt voir l'inverse ? C'est-à-dire qu'une nation, qu'un pays habitué à la liberté, finalement, ne se préoccupe plus de ces droits-là, les considère acquis, s'endort, et du coup, on arrive à une sorte d'apathie.
Oui, un peu ce que décrit Tocqueville, du reste, une sorte de... Voilà, de
question tocquevillienne, hein. Ouais. On en a parlé hier, allez-y,
d'accord,
allez-y.
D'accord. Oui, je suis d'accord avec vous. Enfin, c'est le revers de la médaille, finalement. Quand on a tendance à interpréter le fort taux d'abstention aux élections de façon très pessimiste. Peut-être que c'est aussi le revers de la médaille d'une démocratie qui ne va pas si mal, finalement. Alors après, c'est le risque d'arriver à un point où la démagogie peut prendre le dessus et le privatisme des individus s'imposer. C'est quelque chose que dénonce Habermas, pour le coup, dans les années 60. Hein. Clairement, il engage les Allemands à un sursaut civique, etc. Donc je suis d'accord avec vous, il y a cette tension-là. Mais c'est vrai qu'Habermas, en tout cas, croit de plus en plus, en vieillissant, et c'est bien, optimiste en vieillissant, que voilà, les habitudes de liberté ne se perdent pas complètement.
Peut-être un individu peut-il avoir le sentiment d'exercer sa liberté tout en combattant pour sa servitude, en un sens, ou en tout cas tout en se faisant à son insu, et c'est tout le problème de l'opinion, d'ailleurs on tourne autour depuis le début de cette semaine, en se faisant à son insu le porte-parole de l'opinion la plus répandue. C'est un phénomène particulièrement patent dans ce qu'on voit à la télévision, notamment les micro-trottoirs, où on va demander leur opinion à des gens, à des vrais gens, comme on dit, hein, on va demander leur opinion à des gens, et en guise d'opinion, on a l'opinion la plus répandue sur la question qu'on a posée. On s'est amusé à prélever, tiens d'ailleurs, quelques micro-trottoirs à cet égard. Écoutez.
L'enquête sur la mort du petit Grégory se poursuit. Avec cette fois-ci un nouveau témoignage qui pourrait être important, celui d'un cafetier qui aurait vu le meurtrier. Sur place, notre envoyée spéciale, Isabelle Béchelet.
Incertitude et nouvelles investigations des gendarmes quant à l'endroit où le petit Grégory aurait été jeté dans la Vologne. Selon les pêcheurs, la première hypothèse des enquêteurs n'était pas plausible.
Enfin, le cours, il tournait là. Hein. Il n'aurait pas les saluer tout. Du moins, il aurait tourné au moins une heure, hein, sûr.
Et puis après, il y a encore une digue à passer.
Il y a une digue, mais la digue, j'ai du mal de croire que... Il n'y a qu'une place qu'elle peut passer, c'est de l'autre côté de la route. Je comprends pas qu'il y a des maisons juste en face, que personne n'a rien vu. Parce que même quand on voit personne, il y a toujours du monde derrière les rideaux.
Ça vous paraît bizarre qu'il n'y ait pas de témoignage?
Oui. Ou alors les gens ne veulent rien dire. Ils ont peur.
Ça, vous y croyez qu'il...
Ah, moi j'y crois, oui, c'est sûr.
À l'heure du crime et à 100 mètres seulement des lieux, le patron de l'hôtel de la Poste remarquait dans son bar l'étrange manège d'un homme inconnu au village. Un homme grand et silencieux qui porte des favoris et ne quitte pas la pendule des yeux.
C'est des gens très bien, très gentils, très affables, avec lesquels on discutait. On a pris des repas ensemble, des repas de quartier. C'est pour ça que nous, on comprend. Enfin, on est choqués quand même, hein.
C'est un homme sans histoire, enfin une famille, disons, sans histoire. Il participait aux différentes festivités de la commune. On ne comprend pas son geste, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il est arrivé là. Est-ce que c'est des problèmes familiaux? Alors là, c'est...
Voilà, Alexandre Dupéric, c'est passionnant les micro-trottoirs, à titre de symptômes justement, c'est-à-dire c'est l'expertise, là pour le coup, étendue à l'échelle, la première strate de la discussion informelle dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on demande, le premier témoin venu est devenu expert, on lui dit, croyez-vous, est-ce que en fonction des connaissances dont vous disposez, vous qui êtes un expert puisque vous avez été témoin, qu'en pensez-vous? Et on demande son avis comme si l'avis d'une personne qui n'y connaît rien, en l'occurrence, hormis le fait qu'il en a été éventuellement spectateur, ou du moins le croit-il, comme si un tel avis était en soi une valeur ajoutée. Comment Habermas permet de penser ce phénomène, alors là, pour le coup, archi-répandu et quotidien?
Précisément, en faisant la distinction entre une opinion, je dirais, de base, élémentaire, et puis une opinion qualifiée, d'où l'importance, je reviens, de l'argumentation, de confronter des versions, essayer de... Voilà, d'échanger des points de vue et, bon, je ne peux pas faire de pourcentage, mais on peut espérer que dans un cas, dans un certain pourcentage de la population, des gens peut-être auraient un autre type d'opinion, raisonneraient de manière différente, voilà, ils n'en resteraient pas à ce degré zéro de la réflexion.
Quand vous dites un autre type d'opinion, ça n'est pas une autre opinion, c'est une autre façon de formuler ou d'en venir à l'opinion qu'ils ont.
Exactement, exactement.
Géraldine.
Mais les médias, là, en l'occurrence, vont interroger certaines personnes qui, effectivement, se disent spectatrices, témoins de l'événement ou des personnes dont il est question. Et justement, en fait, les médias, exacerbent cette tendance-là. On parle de sensationnalisme, ouais. Tout ça.
C'est de la responsabilité des médias, effectivement, de favoriser un autre type d'approche.
Mais dans quelle mesure la responsabilité des médias peut-elle être mise en jeu, brandie ou invoquée quand les médias, c'est Internet ? C'est-à-dire quand on a, alors là pour le coup, la possibilité universelle d'un vaste micro-trottoir où en plus les internautes sont sommés de donner justement leur avis. Et où l'on a, c'est très frappant, hein, en particulier d'ailleurs chez même certains des auditeurs qui nous écrivent, où on a l'addition, la juxtaposition d'opinions en elles-mêmes non argumentées qui évaluent la qualité d'une émission au nombre de choses qui se sont dites à l'intérieur et qu'ils approuvent.
Oui. Encore une fois, c'est pour ça que Habermas distingue démocratie d'opinion et démocratie délibérative. Quelle chance a l'opinion de M. X sur le ravisseur présumé du petit Grégory de parvenir jusqu'aux sphères décisionnelles ? C'est ça qui intéresse Habermas, c'est quels sont les sujets pertinents pour notre vie en commun. Celui-ci n'en est pas un. Donc il faut faire aussi le partage entre ce qui peut être relevé du sensationnalisme, comme vous disiez, et ce qui relève de l'intérêt commun. Donc ce genre de thème, de toute façon, pour Habermas, n'est pas important. À la rigueur, ce qui est gênant, c'est que ce type de discussion occupe une place exagérée dans l'espace public. Mais je reviens à la responsabilité des médias, sans parler des médias en particulier, mais de toute personne susceptible de filtrer, de présenter, de synthétiser, de représenter une partie de la population, qu'il le fasse avec... la visée du bien commun, encore une fois.
C'est-à-dire en se débarrassant aussi de l'injonction marchande, Géraldine.
Mais, ouais, excusez-moi, je termine juste. Cela dit, ça reste très important que chacun puisse dire ce qu'il a envie de dire par rapport à Internet. Effectivement, une sorte de fragmentation des avis. Tant mieux. On voit précisément dans les régimes qui ne sont pas démocratiques comme cette forme élémentaire de communication est proscrite. Donc tant mieux. C'est un premier niveau d'expression. C'est pas pour autant, encore une fois, que la démocratie s'en trouve honorée, renforcée, mais c'est un premier degré d'expression.
Non, mais en revanche, l'intérêt d'être en démocratie, c'est de permettre la critique des dérives qui vont avec. Droit qui, par ailleurs, est vanté et présenté à juste titre comme inaliénable et nécessaire.
D'où l'intérêt du modèle de démocratie libérative et d'où l'intérêt de la thèse de Habermas sur l'espace public, de nous présenter une sorte d'étalon critique qui nous permette de nous rendre compte quand, finalement, cet idéal d'espace public est perverti.
Dans le cas, là, par exemple, des micro-trottoirs, les gens donnent leur avis, effectivement, sans argumentation. Par exemple, Internet, justement, donne la possibilité aux gens de donner leur avis « j'aime, j'aime pas ». Donc, finalement, un avis qui n'est pas argumenté, un jugement de goût qui n'a pas valeur universelle.
Et qui débouche surtout, c'est important par rapport à Habermas, sur aucune prise de décision. Parce que c'est ça, une démocratie délibérative. C'est pas juste exprimer un goût, c'est faire en sorte, si un thème est important, qu'il soit porté tout simplement au Parlement, pour le dire rapidement.
Mais justement, à partir de ça, ce renversement des médias qui, justement, n'attendent que des opinions de ce genre-là, qui ne veulent pas engager un processus d'action politique, de rassemblement, mais qui finalement, cantonnent les individus à être des consommateurs. Et justement, vous parliez tout à l'heure d'Habermas qui élabore une pensée critique, et ce qui me semble aussi intéressant chez Habermas, c'est justement de penser la société, enfin l'espace public, le passage d'un espace public comme culture discutée à une culture consommée.
Exactement, c'est ça. C'est une thèse centrale de son livre de 1962. Comment l'idéal de sphère publique bourgeoise qui émerge au XVIIIe siècle.
L'expression est de lui, hein, il faut préciser, hein, l'idéal de sphère publique bourgeoise.
Tout à fait. Qui émerge au XVIIIe siècle, se pervertit, se transforme et se subvertit dans le cadre des démocraties de masse. Effectivement, on passe d'une culture d'un public éclairé qui parle de la culture à un public qui la consomme. Encore une fois, pas de solution définitive avec Habermas. Il constate, il nous fait prendre conscience d'eux. Et à nous aussi, parce que là, je crois aussi qu'on est dans le cadre de la démocratie, donc il attend aussi des impulsions spontanées, des impulsions critiques, qui seront d'autant plus prévisibles que, encore une fois, la population est éduquée, est habituée à critiquer. Voilà, cette tension, à nous d'en prendre compte, d'en tenir compte et d'en prendre conscience.
Comme on s'approche du terme de cette émission, il y a quand même une thématique sur laquelle il faut qu'on revienne parce qu'on n'a pas suffisamment insisté dessus. Vous me le disiez tout à l'heure, Alexandre Dupéryx, et vous avez raison. C'est la question de l'espace public européen, ou plus exactement l'extension à l'échelle de l'Europe de la question de l'espace public. Alors, comment Habermas pense-t-il ce saut qualitatif de la nation à l'Europe, pour le coup? Comment opère-t-il cela? Et comment pense-t-il la possibilité d'une démocratie, justement, à l'échelle européenne? Une démocratie, je mets ici le mot entre guillemets, à laquelle on fait bien souvent le reproche, un, de ne pas être élu, au fond, c'est-à-dire d'être gouverné par des gens qui ne sont pas élus, et deux, en vérité, d'être un gouvernement technocratique, un gouvernement des experts.
Alors effectivement, depuis les années 90 à peu près, Habermas s'engage pour la cause de l'Europe et il développe conjointement, il a développé l'idée d'un espace public européen. Alors il ne parle pas d'un espace public supranational, mais tout simplement d'un espace public transnational. Ce qu'il souhaiterait, c'est qu'il y ait une sorte de décloisonnement de nos espaces publics nationaux. Alors ça peut être très, très simplement, très concrètement, que dans les journaux, on parle davantage d'Europe, de ce qui se passe dans les pays voisins, que lors des élections européennes en France. Je me souviens que les journaux télévisés, le soir des élections, parlaient exclusivement des résultats en France et pensaient déjà à 2012. Je voyais parallèlement sur la CDF, la radio allemande, que là, on parlait des résultats partout en Europe. C'est ça, un espace public transnational, c'est un espace public ouvert à ce qui se passe ailleurs. Je dirais qu'il a une vision traditionnelle, hein. Il a 80 ans. Il est né en 29 et donc il se fait de ces thématiques encore une fois, une vision simple. L'espace public, c'est la presse, c'est la télévision. Eh bien, à la presse et à la télévision, de parler davantage de nos voisins. Et puis, pour terminer peut-être là-dessus, ce sur quoi repose une démocratie, c'est une légitimité par le peuple. L'espace public européen permettrait précisément de rendre légitimes les décisions qui sont prises à Bruxelles, à Strasbourg, qui nous sont souvent inconnues, hein, précisément parce qu'on n'a pas d'espace public européen.
C'est d'être d'accord. Quelques promesses en bandoulière. J'écoute toutes vos prières. De l'ambition rivée au corps. Pour plaire aux jeunes et aux grands-mères, je dirai tout et son contraire. Je ne vous promets aucun effort. Je serai pour vous comme un père, comme un ami ou comme un frère. Je n'ai jamais aucun remords. Gants de velours et main de fer. Tant pis si certains restent à terre.
Merci Alexandre Dupéryx d'être venu nous parler de Habermas. Comprendre Habermas, c'est chez Armand Collin, c'est de vous, c'est tout à fait nécessaire. L'espace public de Habermas, on le trouve chez Payot avec une préface inédite de l'auteur. Et enfin, j'ai cité tout à l'heure un passage des mythologies de Roland Barthes. Je ne me lasse pas de citer ce livre à l'antenne, un livre absolument nécessaire. Ça date de 57. C'est prodigieux. Le chapitre, en l'occurrence, concernait Poujade et les intellectuels. Un régal.
Je crois en la valeur travail. Venez à moi tous les chômeurs, je vous promets de la sueur. J'agite les épouvantails, j'attise toutes les rancœurs. Je vous rassure, je vous fais peur. Le monde est une grande pagaille. Ça fait frissonner les lecteurs, ça fait les titres du 20h. Dès que j'aurai le gouvernail, pour assurer votre bonheur, faudra vous lever de bonheur. Je suis l'homme providentiel, j'ai affûté mon baratin. La solution tombe du ciel, je promets tout, je ne promets rien. Je suis l'homme providentiel, mi démago, mi magicien. Envoyez-moi au 7e ciel et dormez bien.
Le 10h50 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver notre femme providentielle, Adèle Vanrette et le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Qu'est-ce que la science? Peut-elle vraiment répondre aux promesses faites par les acharnés du progrès? Et est-elle le fait d'experts ou de chercheurs? Élément de réflexion tout de suite avec le philosophe Heinz Wissmann. Bonjour Heinz Wissmann.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et philologue, directeur d'études à l'EHESS où vous dirigez un programme d'enseignement et de recherche sur l'épistémologie des sciences humaines. Et vous êtes l'un des quatre auteurs du livre qui nous sert de fil conducteur cette semaine. Je le rappelle, La science en jeu, qu'on trouve aux éditions Actes Sud et qui est un livre qui est une véritable mine d'or de réflexion sur la nature de la science et la façon dont elle est perçue aujourd'hui dans la société. Dans vos contributions, Heinz Wissmann, dans ce livre, vous insistez beaucoup sur le caractère historique de la définition de la science, mais aussi de la perception qu'on en a. À savoir que le savoir, justement, la définition du savoir porté par les individus qui en sont investis, a changé au cours de l'histoire et qu'on est passé d'une volonté de représenter le réel dans sa totalité à l'affirmation qu'un tel idéal était inachevable.
Je crois que ça, c'est le basculement tout à fait essentiel si on veut avoir un accès à peu près convenable à ce qui se présente comme la science contemporaine. Pendant quand même deux millénaires au moins, dans notre sphère occidentale, on a considéré que la science était essentiellement un effort pour bien saisir les substances qui constituent le réel dans leur diversité et d'expliquer comment cette diversité a pu naître d'une unité plus profonde qu'on appelait au tout début, eau, air, feu, que sais-je, ou être. À partir de la Renaissance, ces choses changent profondément, encore que ce soit très très compliqué, c'est un processus lent, mais progressivement, on abandonne l'idée qu'on puisse vraiment se satisfaire de la représentation des choses telles qu'elles se présentent à nous. La grande science arabe, qui était quand même quelque chose de parfait, d'une certaine manière, et pour la médecine, pour la physique, l'astronomie, disparaît comme par enchantement au moment où on commence à s'intéresser non pas aux substances, mais aux fonctions, c'est-à-dire à ce qui, à l'intérieur des réalités périssables que sont les substances, est éternel. L'idée est d'abord tout à fait religieuse. C'est dans le christianisme où on pense que Dieu s'est d'une certaine manière incarné, que naît l'idée que ce qui fait la vérité de ce que nous pouvons connaître, ce n'est pas ce que nous en voyons, mais ce qui est caché comme écriture secrète de la création. Mais alors, ça, c'est les mathématiques.
Vous mettez la substance du côté du périssable et la fonction du côté de l'éternel?
Oui, c'est l'idée tout à fait centrale, parce que c'est comme pour l'Eucharistie. Je le dis, c'est un peu surprenant quand on avance l'idée que la science moderne, qui met l'accent sur les fonctionnalités qui sont, elles, immuables, au détriment de ce qui se laisse observer comme réalité substantielle. Dans l'Eucharistie, Dieu s'est incarné dans le périssable. Et c'est un modèle dont on sous-estime la pertinence pour le développement de la science. Les scientifiques ont beau être athées, ils travaillent dans un modèle profondément chrétien, qu'on ne retrouve dans aucune des grandes civilisation marquée par d'autres religions. C'était ça une des thèses que j'ai avancées dans ce livre. Et à partir du moment où on passe de la substance à la fonction, ce qui est le titre d'un grand livre de Ernst Cassirer, le néo-kantien de l'école de Marbourg, paru je crois en 1911, et qui retrace ce mouvement absolument saisissant qui fait que Galilée, au lieu d'observer les corps qui tombent, se demande quelle peut être la loi qui est commune à tous les corps, mais qui est invisible, et qui est la fonction de la chute libre. À partir de là, jusqu'à la mécanique quantique, on a désubstantialisé le monde et la vérité scientifique. C'est pour cela qu'elle est d'une certaine manière inachevable, puisqu'on ne retrouvera jamais le monde entier qu'on a pu se représenter comme un monde peuplé de substances. Maintenant, ce qu'on trouve, ce sont des espèces de parcelles du réel, qui s'organisent chaque fois en fonctionnalités qu'on peut décrire dans un langage ésotérique, que sont les mathématiques, dont Descartes, et après lui, Galilée, pensait que c'était le langage même dans lequel la création avait été produite par Dieu.
Alors ce passage de la substance à la fonction, on peut aussi le présenter d'une manière plus historique, justement, c'est aussi le passage de la pensée grecque, on va dire, jusqu'à l'arrivée, c'est ce que vous montrez bien dans le livre, du judaïsme, hein, qui bat en brèche complètement cet idéal d'une science contemplative, puisque le judaïsme, en invitant à détourner le regard, appelle à ne se fier qu'à un texte révélé, et donc montre que l'important n'est pas ce qui est vu, mais au contraire est l'invisible. Voilà. Ça aura une conséquence énorme sur la perception de la science elle-même.
Naturellement, mais ça crée d'abord une tension. Pour les Grecs, c'est la présence des choses qui faisait leur divinité. C'est une religiosité de l'immanence. Pour les Juifs, la grandeur, la puissance divine se situe dans la transcendance. Donc on ne peut même pas se faire une image de Dieu, il est interdit même de le nommer de manière directe. Cette transcendance entre en conflit avec l'immanence. Et c'est là qu'interviennent les pères de l'Église qui forgent la doctrine chrétienne comme un compromis ou une synthèse entre une religiosité de l'immanence héritée des Grecs, et que les Arabes ont d'ailleurs maintenue, et une religiosité de la transcendance radicale, d'une certaine manière, ce que j'appelle le symbole de l'Eucharistie et le symbole de la synthèse. Quelque chose est là, est une substance, le pain, et quelque chose est également là, et qu'on appelle la présence réelle, dans le langage théologique, eh bien, c'est la présence réelle de l'absence.
Mais ça, c'est très intéressant, le fait que vous compariez la science contemporaine à l'Eucharistie, puisque ça montre que, alors qu'aujourd'hui, on dissocie complètement la religion de la science... à vous entendre, on les voit comme indissociablement liés.
Absolument. Et c'est le paradigme chrétien qui a triomphé, même si les scientifiques sont athées, ça n'a rien à voir. C'est le paradigme qui a triomphé. Et cela a délégitimé, en premier lieu, dans notre partie du monde, la grande science arabe qui était, elle, limitée par le postulat de la transcendance absolue du divin. C'est l'incarnation qui est la marque de fabrique du christianisme, qui dynamise d'une certaine manière le processus même de la nature, puisque la création, elle est conçue de manière à ce que, en elle, se combine constamment apparence et invisibilité. La science, en fouillant les entrailles du réel, en cherchant de plus en plus profondément, quoi ? Des invariants, des lois. La science est d'une certaine manière en quête de ce que le christianisme appelle la présence divine.
C'est passionnant de vous écouter, Heinz Wissmann. Malheureusement, l'entretien est déjà terminé. Donc, je rappelle que vous êtes l'un des auteurs et contributeurs de ce livre qui s'appelle « La science en jeu », où vous réfléchissez avec Étienne Klein, Jean-Michel Besnier et Hervé Le Guader sur cette question de la science aujourd'hui, la définition de la science, la difficulté de lui attribuer un sens aujourd'hui. Pardon. Voilà, donc le livre est disponible en ce moment et c'est vraiment très très intéressant. Allez-y, c'est « La science en jeu » et c'est aux éditions Actes Sud.
Les Nouveaux Chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Internet à la page donc des Nouveaux Chemins où vous attend le téléchargement des émissions de la semaine, l'écoute en ligne de toutes les émissions précédentes, ainsi qu'une bibliographie sur Habermas. Retrouvez-nous également demain. Mais demain, c'est une émission exceptionnelle à tous égards que nous vous proposons. Un plateau de rêve pour une journée spéciale, en direct du campus de Saclay, autour du thème de la recherche, dont France Culture vous parlera toute la journée. Et c'est vous, Adèle, qui serez à la manœuvre demain pour une heure de débat en direct avec les amis Heinz Wiesmann et Étienne Klein. 10h59 sur France Culture, dans un instant Culture Monde, Florian Delorme.